Donc, tout d'abord, je remercie la BPI et l'ENSIB, et à l'ENSIB particulièrement Christophe Catanès qui a encadré mon travail, de me donner la parole ici. Donc, je vais vous parler de la couleur en bibliothèque et principalement de l'impact et des interactions que ça peut avoir sur l'image des bibliothèques. Je vais restreindre mon intervention aux interventions architecturales et uniquement en architecture d'intérieur et exclure complètement tout ce qui est interface web des bibliothèques. Et d'un point de vue géographique, ça va surtout être des exemples français avec quelques exemples étrangers, mais uniquement européens. Et je me situe enfin du côté de l'offre, c'est-à-dire de l'image d'elle-même que les bibliothèques veulent donner, et pas du tout du côté des usagers et de l'interprétation des couleurs qu'ils ont, avec une certaine actualité de ce sujet, à l'heure où la bibliothèque physique est un lieu qu'on cherche à remettre au goût du jour et où il faut attirer les usagers qui ont tendance à être plutôt à distance, et où la notion d'accueil notamment est au cœur de débats et de travaux, que ce soit à travers la charte Marianne ou d'autres éléments et consignes ministérielles. Pour ce faire, je vais donc m'interroger sur la place et le rôle des couleurs et leur impact sur l'image de la bibliothèque en trois points. Tout d'abord, un panorama des lieux où la couleur s'exprime et en quoi ça signifie culturellement quelque chose pour les bibliothèques et les évolutions qui sont en cours. Ensuite, un panorama des couleurs qui sont actuellement plébiscitées dans les projets de construction récents, puisque le corpus que j'utilise, ça remonte à peu près à 2007 dans les ouvertures, donc c'est plutôt des projets vraiment récents. Et enfin, pour finir, quelques exemples où la couleur devient vraiment l'identité de la bibliothèque et joue un rôle moteur dans la diffusion de son image. En ce qui concerne les espaces, il y a en effet des zones où la couleur est privilégiée en bibliothèque, avec des habitudes et même des poncifs qui ne sont pas forcément réfléchis, mais qui s'imposent d'eux-mêmes. Alors là, les visuels sont assez frappants. On voit que les espaces jeunesse pour une même bibliothèque sont foisonnants en couleurs et en couleurs oui, vraiment diverses et plutôt vives, alors que la même bibliothèque pour les espaces adultes, c'est plutôt le royaume de la non-couleur. Cette première évidence, c'est que quand on cherche des couleurs en bibliothèque, on pense tout de suite à la section jeunesse, et il y a du coup une connotation qui s'installe. La couleur, c'est plutôt du côté du ludique, du festif, de la décoration et du divertissement, du plaisir. Et par opposition, la bibliothèque pour grands, c'est le lieu sérieux, un peu poussiéreux, très géométrique et qui est un lieu d'étude, de savoir, très mesuré. On n'a pas le droit de courir partout, de parler fort, contrairement à la bibliothèque jeunesse. Donc on peut du coup de là se demander si la bibliothèque, c'est pas un espace de non-couleur, en tout cas la bibliothèque de recherche et d'études. Je précise tout de suite que les visuels que j'utilise là, c'est pas du tout pour critiquer ou porter un jugement défavorable sur les bibliothèques qui sont citées dans ce diaporama. C'est juste un constat et c'est pas dévalorisant pour ces bibliothèques-là. C'est également lié au catalogue des fournisseurs qui n'ont pas forcément des nuanciers très très variés à proposer, alors que pour les bibliothèques jeunesse, tout de suite, le mobilier adapté avec des tailles plus petites, etc., on a un éventail de nuanciers beaucoup plus large. Donc ici, on voit qu'on peut utiliser des termes, si on s'y intéresse, pour décrire la couleur de ces espaces. C'est plutôt gris, bleuté, blanc. Mais c'est pas, il n'y a rien qui ressort, et du coup, c'est des lieux qui sont un peu interchangeables, qui sont pas mémorisables en tant que tels, qui n'ont pas d'identité et qui sont surtout pas très chaleureux. C'est également le cas à Lausanne au Rolex Learning Center, quoique bien sûr il n'y a pas de couleur qui ressort et c'est assez frappant, mais cet usage systématique du blanc devient presque du coup une couleur, parce que on a une espèce de sensation d'apesanteur qui est liée aussi à l'architecture tout en courbe de cet espace, et paradoxalement, la non-couleur devient palpable, alors que ce n'était pas forcément le cas dans les usages précédents. Maintenant, si on revient aux sections jeunesse, Alors là, non seulement c'est l'explosion de couleurs, mais en plus, c'est des couleurs qui sont très vives et très saturées. C'est principalement les couleurs primaires, très sorties du tube, rouge, jaune, bleu. Parfois, on ajoute aussi un vert très, très vif. Et c'est lié, là encore, au catalogue des fournisseurs et au fait que les sections jeunesse sont souvent, ou en tout cas étaient, dans un espace à part pour tout un tas de raisons de sécurité et d'accès, mais qui permettait d'installer une atmosphère complètement différente par rapport au reste de la bibliothèque. Néanmoins, là comme ailleurs, on voit quelques évolutions et mutations, c'est-à-dire que des couleurs très très primaires, on vient à des teintes toujours vives et diverses, mais plus vitaminées, plus avec de, on n'est plus sur trois couleurs, mais un peu plus. Et donc il y a l'apparition du rose, du orange, du vert qui est plus anis, et des couleurs un petit peu moins stigmatisantes. C'est lié aussi au fait que on a des grands plateaux uniques et que par conséquent les adolescents se sentaient peut-être un petit peu enfermés dans un mobilier très très bébé et du coup il a fallu faire évoluer ça et les fournisseurs s'y sont assez vite prêtés. Et de même, ça s'est exporté dans le reste de la bibliothèque. Et c'est vrai, en bibliothèque municipale, tout ce qui est salon de lecture, lieu de lecture de la presse, etc., on voit qu'il y a de plus en plus de couleurs, aussi parce que les mobiliers d'assises sont les plus faciles à remplacer et les moins coûteux peut-être aussi pour suivre la mode, alors que changer des rayonnages et rééquiper toute une bibliothèque, ça va être plus compliqué. Et parce que on peut faire appel à une gamme de fournisseurs beaucoup plus large que pour des rayonnages où, de toute façon, les marchés sont assez restreints. Et c'est vrai en BM, mais c'est vrai en BU, où les espaces de convivialité, de détente, à la BU de Lyon 1, par exemple, il y a une salle spécifique pour ça au rez-de-chaussée, utilise des espaces qui n'existaient pas forcément auparavant. Il y a aussi des contre-exemples, par exemple à la BU des Grands Moulins à Paris 7, les chauffeuses sont noires et comme le bâtiment est très lumineux mais aussi très gris, j'ai remarqué quand j'ai fait mon stage là-bas que non seulement elles étaient noires mais ça ne marchait pas du tout, il n'y a jamais personne sur ces chauffeuses et les étudiants préfèrent aller sur des chaises toutes simples et comme par hasard elles sont rouges. Donc la couleur a vraiment un rôle dans le choix des espaces. Et ça va au-delà, dans tous les espaces qui s'agrègent autour de la bibliothèque, notamment les zones de restauration avec les cafétérias. Donc là, on retrouve le Rolex Learning Center à Lausanne. Alors évidemment, ce n'est pas très, très criant pour le café Paul Klee que vous avez au milieu, mais c'est tellement tout blanc dans cette bibliothèque que ce léger dégradé de couleurs lumineuses dans l'arrière-fond qui va du rose au violet, en passant par un rouge un petit peu plus soutenu et diffus, que quand on est sur place, il est vraiment visible et palpable. Et puis à gauche, on a le 1% culturel de la bibliothèque, qui est une œuvre qui rassemble toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et donc qui est visible à travers différents espaces de la bibliothèque, par les espèces de puits de lumière intérieure. Et encore une fois, les éléments d'assises avec ces poufs qui se baladent un peu partout dans la bibliothèque et que les étudiants font voyager dans la bibliothèque et dans les espaces autour de la bibliothèque, ce qu'ils appellent la diagonale sociale. Donc j'en viens à ma deuxième partie. Après avoir fait ce bref aperçu des lieux d'expression privilégiés de la couleur et du phénomène de généralisation de cette couleur comme porteuse de valeurs, d'accueil, d'hospitalité, il est temps de voir que d'autres éléments de modernisation de l'image de la bibliothèque sont à l'œuvre, à travers le choix revendiqué de certaines couleurs. Et donc là, j'ai, en compilant tous les exemples d'ouvertures récentes, j'ai relevé trois grandes tendances. Le noir et blanc qui revient en force, et après une prédominance des couleurs chaudes, le rouge et toute la déclinaison du rose au prune, violet, toute cette gamme chromatique-là. Donc, du côté du noir et blanc, ce ne sont pas du tout des couleurs nouvelles. Elles sont dans les catalogues des fournisseurs depuis le début. C'est des valeurs sûres. C'est les deux couleurs de base qui peuvent être considérées même comme des absences de couleurs. Ce qui est nouveau, c'est soit leur association en binôme, soit leur usage systématique qui du coup les rend visibles, parce que des rayonnages blancs en soi, il y en a un peu partout, mais quand toute la bibliothèque est blanche et en plus qu'il y a un jeu d'éclairage qui renforce cet effet-là, ça devient une couleur en soi. Et le noir, ça vaut exactement pour, ça vaut la même chose, on a le même phénomène pour le noir. On détourne donc des couleurs très classiques de l'écrit, les couleurs de la page écrite, pour inventer une sorte d'originalité. Et c'est un peu à l'image du défi auquel sont confrontées les bibliothèques, faire un peu de lieux traditionnels, des lieux de modernité et un peu élégants, parce qu'on peut dire que le noir, c'est la couleur du deuil, de la tristesse, de la mélancolie, mais c'est aussi la couleur de l'élégance par excellence. Et c'est ces côtés-là que les coloristes, notamment, utilisent. Ce noir et ce blanc peuvent aussi être mis en évidence par une note de couleur, et comme par hasard, c'est toujours une couleur chaude qui est choisie en association, pour les rendre plus visibles. Et donc là, c'est le côté monochrome, on a l'impression que c'est une absence de couleur, alors que dès qu'il y en a deux, tout de suite, ça rend visible à la fois le blanc et à la fois le noir et la couleur chaude qui est utilisée en contrepoint. Et on va voir que les couleurs chaudes, de toute façon, sont plébiscitées. Et quand on voit une mosaïque comme ça, ça saute tout de suite aux yeux, puisque le rouge est très très présent dans les dernières constructions que j'ai pu visiter. Une des particularités du rouge, c'est qu'il peut être vraiment partout. C'est pas pour le coup que les éléments d'assises. On a beaucoup de sols lisses, très brillants, voire réfléchissants. Il n'y a qu'à penser à la bibliothèque Kandinsky à Beaubourg. Les murs peuvent être également rouge pompier. Les rayonnages et les chariots, ça ne pose pas de problème parce que du rouge, il y en a presque toujours dans le nuancier de base, alors avec des nuances plus vermillon ou plus bordeaux, mais il y en a quasiment toujours chez tous les fournisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du symbole, le rouge, c'est la couleur par excellence. Dans une langue, quand on n'a que trois termes pour décrire de la couleur, c'est noir, blanc et rouge. C'est aussi une couleur chaude, donc avec toutes les valeurs de force, d'énergie, de dynamisme, de convivialité. C'est pas innocent si dans le hall d'accueil du centre PMF à Paris 1, on a choisi du rouge, ça invite à rentrer dans la bibliothèque et ça rompt avec cette image de lieu triste et pas très attractif. Du point de vue de la chromothérapie, c'est la teinte qui favoriserait le plus, qui serait la plus active physiologiquement. Ça augmente la pression sanguine et ça accélère le rythme cardiaque. Et donc, pour cela, ça favorise la stimulation intellectuelle et l'énergie. Donc, des salles de lecture rouges, contrairement à ce qu'on pourrait penser, seraient plutôt recommandées pour favoriser l'action intellectuelle. Sachant qu'en plus, c'est la couleur de la connaissance, l'arbre de la connaissance est rouge. Sur le plan symbolique, c'est aussi la couleur de la distinction, avec la Légion d'honneur, le tapis rouge, les livres de prix, tout ça, c'est rouge. Donc, ça paraît assez légitime dans un sens que les bibliothèques recherchent cette notion de prestige, tout en restant des lieux ouverts à tous et pas versés dans l'élitisme. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est cet engouement très contemporain pour tout ce qui est violet, parme, rose, et rose plutôt fuchsia, plutôt très, très flashy, puisque c'est des couleurs qui ont été très longtemps absentes, qui souffrent plutôt d'un déficit symbolique. Ça reste des couleurs chaudes, donc avec une valeur un peu moins forte que le rouge, mais c'est aussi la couleur du demi-deuil ou du deuil. Le rose, c'est pas forcément facile à utiliser avec les connotations érotiques que ça peut avoir, ou alors totalement rose-layette, univers du bébé et de la petite princesse. Donc c'est plus surprenant que ça arrive dans les bibliothèques. En même temps, la mode vestimentaire de ces dernières années et les intérieurs domestiques se sont vraiment emparés de ces couleurs-là. Et donc, c'est intéressant de voir que les bibliothèques essayent de, en quelque sorte, se mettre au goût du jour et de s'emparer de cette couleur-là. Les fournisseurs de mobilier n'ont pas tout de suite embrayé dessus, plus pour les fournisseurs qui sont utilisés en bibliothèque de lecture publique. Donc, on va avoir du mobilier de cette couleur-là, notamment dans des bibliothèques de la ville de Paris, dont je crois qu'il y a des représentants, enfin des membres du personnel ici. Pour les BU, c'est moins le cas, donc ça va plus être utilisé au sol ou sur les moquettes, parce que là, il y a moins de contraintes et c'est plus facile de trouver ces teintes-là. Et donc, proposer au sein de la bibliothèque une ambiance chromatique dans l'air du temps, à condition que cette mode dure plus qu'une saison, parce que ça peut très vite être daté aussi, et la bibliothèque est appelée à durer plus que le temps de vie d'un t-shirt ou d'une jupe. Et donc, c'est un peu à... l'effet positif généré peut être vraiment très attractif, mais c'est un peu à double tranchant si jamais la mode change. Les couleurs utilisées dans l'architecture et l'ameublement des bibliothèques en s'adaptant à la mode contribuent donc à renouveler l'image des établissements et à en faire des lieux d'accueil modernes qui sont attractifs pour les usagers. Mais le pouvoir de la couleur peut quand même aller encore au-delà, et ce sera la troisième partie, en devenant l'identité même de la bibliothèque, et je vais voir ça à travers plusieurs exemples, en rappelant tout d'abord que c'est déjà un marqueur culturel et géographique, puisqu'on cite toujours les bibliothèques nordiques en exemple, et il y a ce fameux design suédois qui frappe là aussi dans les bibliothèques, avec une espèce de blancheur immaculée qui apparaît énormément dans les bibliothèques suédoises et danoises, souvent associée avec une couleur très vive. Et du côté de l'Allemagne et des Pays-Bas, ça, je m'appuie sur les termes aussi des fournisseurs de mobilier qui travaillent particulièrement sur ces marchés-là. BCI, qui est un fournisseur suédois, ou EKZ, qui est, aussi travaille beaucoup sur les marchés allemands, m'ont dit, voilà, nous, on est en train de, USM aussi, on est en train de ressortir dans les catalogues français les nuances d'orange, parce que c'était très marqué années 70 en France, le vert, pareil, le mobilier vert-pomme de la BPI a complètement disparu. Mais par contre, en Hollande et en Allemagne, c'est des couleurs qui sont vraiment très utilisées. Et comme c'est un peu le nouveau référentiel, le nouveau modèle, notamment la DOC à Delft ou la bibliothèque d'Amsterdam sont des nouveaux modèles, on est en train de les ressortir et ça a un succès assez impressionnant. Il n'y a qu'à voir sur le salon de l'ABF l'année dernière, presque tous les stands étaient en orange avec des banquettes en laine orange qui avaient un petit côté rétro assez frappant. Et du côté de l'image, on voit que la couleur peut vraiment devenir un instrument de communication et l'identité de la bibliothèque. Ça, c'est la façade extérieure du Learning Center de Borås, en Suède. Ils ont joué sur la couleur des stores. L'avantage, c'est que c'est visible intérieur-extérieur, puisque ces stores-là sont en fait... ça fait un peu un microfilm, et donc de l'intérieur, on voit aussi... Ça se voit aussi de l'intérieur. Ça a été repris comme logo de communication sur tous les supports, site internet, guide du lecteur, etc., en ligne. Et puis sur le sac qui est commercialisé et qui diffuse du coup l'image de la bibliothèque dans toute la ville, parce que les étudiants se baladent avec leur sac de la bibliothèque qui est aux couleurs de la bibliothèque et qui est un symbole assez sympathique. Et en plus, la mode de tout ce qui est à poids tombe à point nommé, donc... Donc ça a un succès assez intéressant. C'est un peu la même chose, en beaucoup moins connu, à la bibliothèque de Ville d'Avray. En 2006, il y a eu un projet de rénovation de la signalétique. Et en fait, il a été choisi de créer un parcours typographique avec la création de lettrines qui créent un parcours multicolore dans la bibliothèque, parce que chaque lettre utilise une typographie et une couleur particulière associée à une thématique ou à un pôle documentaire. Donc c'est présent dans la bibliothèque avec ces lettrines qui surmontent les rayonnages. Et en fait, ça a été choisi par la ville pour devenir le logotype de la bibliothèque. Donc c'est pareil, c'est ce qui est sur toutes les entêtes, les vecteurs de communication. C'est devenu l'image de la bibliothèque de Ville d'Avray. Là encore, c'est le côté multicolore qui a séduit. Et enfin, à Rennes, on voit un triple usage de la couleur. Puisque l'intérieur de la bibliothèque des Champs Libres est plutôt assez gris et uniformément gris, conformément aux volontés de Christian de Porzamparc, sauf là aussi une utilisation des vitrages pour le côté intéressant d'apporter de la couleur à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il y a 5 rectangles de couleurs, et là c'est encore l'association forme et couleur qui a du sens. Qui ont un rôle de décoration et qui sont omniprésents dans la bibliothèque, un rôle d'orientation signalétique puisque c'est repris sur les bannières qui orientent les lecteurs, et un rôle aussi de distinction puisque sur les automates de prêt, pour identifier dans quel automate vous devez rendre vos documents, qui correspondent chacun à un plateau et à un pôle documentaire, ces couleurs ont été reprises à l'entrée de chaque étage et sur les automates qui sont tous au rez-de-chaussée. On ne peut pas non plus parler d'identité visuelle sans parler de l'usage de la couleur que peuvent faire les architectes, parce que certains s'en emparent vraiment comme un outil et comme une signature visuelle. Donc là, je me suis appuyée sur l'exemple de la bibliothèque de Paris 8, mais Pierre Riboulet, l'architecte, a vraiment travaillé comme ça, cette couleur blanche dans les autres grandes réalisations, que ce soit à la BFM, à Limoges ou au Mirail. Donc lui, il travaille en association la couleur blanche et la lumière, notamment la lumière zénitale. Et là, pour lui, c'est vraiment lié au fait que ce soit une bibliothèque. Le blanc, il rapproche cette couleur-là de l'espace vierge favorable à la création de l'esprit, à une atmosphère monacale, voire ascétique, lorsqu'elle se conjugue avec un silence feutré. Et il parle aussi d'espèces de Moby Dick fabuleux et de la page blanche, je le cite. « Nous sommes dans la vie quotidienne d'aujourd'hui harassés par le nombre et la présence des signes, et souvent pire encore, des signaux. Nous obéissons, assujettis que nous sommes à ce pouvoir sans visage, les réflexes tiennent lieu de connaissance et de jugement. Une bibliothèque doit précisément dire l'inverse, signifier par elle-même, donner à voir et à comprendre, créer les conditions sereines et légères favorables à la libre circulation des personnes et des idées. La page blanche est à l'opposé des conditionnements. Ce bâtiment doit lutter contre la montée de l'insignifiance dénoncée jadis par Castoriadis. » Et donc, par conséquent, dans cet univers blanc et très très lumineux, les seuls points de couleur qui ressortent sont les bannières multicolores créées par Pippo Lioni et qui servent d'indication pour s'orienter dans l'espace et retrouver les collections. Et il y a aussi un usage du jaune qui est assez particulier, ça signale tous les bureaux d'orientation. Il n'y a pas de visuel ici parce qu'il y avait toujours du public devant et par conséquent, pour les droits à l'image, je ne pouvais pas prendre de photos de ces espaces-là. Juste avant d'en terminer, j'aimerais souligner le fait que cette étude est encore très bibliothéco-centrée et qu'on aurait tout à gagner à aller voir d'une part de l'autre côté, voir ce qu'en pensent les usagers et mettre en place des enquêtes pour essayer de voir comment les couleurs conçues par les bibliothécaires sont reçues par les usagers, voir si pour eux vraiment cette idée d'image existe. Et d'autre part, en s'ouvrant à des comparaisons avec d'autres lieux culturels, parce que les mêmes architectes vont être à l'origine d'écoles ou de centres culturels, de musées, mais aussi et surtout avec l'utilisation des couleurs qui est faite dans les lieux de commerce, notamment les librairies, puisque Christophe Evans parlait ce matin des noms des librairies. Il y en a beaucoup qui ont des noms avec un terme de couleur. Il y a l'herbe rouge, la griffe noire, ombre blanche. Et c'est une couleur qui est utilisée, les couleurs sont utilisées à des fins marketing. Donc ce serait intéressant de voir comment on pourrait ou pas adapter ça aux bibliothèques. J'en ai donc maintenant terminé et pour conclure, je dois remercier tous les établissements qui m'ont permis de faire des photos pour réaliser ce travail, également les gens qui ont accepté que j'utilise leurs propres photos et j'ai aussi beaucoup utilisé les documentations commerciales des fournisseurs de mobilier, donc ça fait un certain nombre de sources qui ont été essentielles pour réaliser mon travail. Alors maintenant, comme il y a des gens qui travaillent dans des bibliothèques qui ont été citées, je ne sais pas si certains veulent réagir, infirmer, confirmer ou discuter ce que j'ai pu vous présenter.